Je vous invite à prendre vos Bibles. Donc nous terminons ce matin le livre de Daniel. Et pour ma part, c'est avec une grande reconnaissance pour tout ce que j'ai découvert dans le livre de Daniel, tous les trésors qu'il y a dans la parole de Dieu. Donc on va lire ensemble le 12e chapitre de Daniel. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardais, et voici, deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve, l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, « Quand sera la fin de ces prodiges ?» Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche. Il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'entendis, mais je ne compris pas, et je dis, « Mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses ?» Il répondit, « Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront été intelligents, ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. » Alors ce passage nous parle d'une époque de souffrance, une époque de détresse. Daniel le dit, il dit « Une époque telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. » On en avait parlé un petit peu la semaine dernière, puisque Jésus dit la même chose en Matthieu 24, 25. Il parle d'une époque de détresse telle que l'humanité n'en a pas connue. Daniel nous parle donc de cette période qu'on appelle la tribulation. La tribulation, ça porte bien son nom. Hein. Une tribulation, c'est une épreuve, mais forte, hein, une épreuve intense. Et l'humanité va vivre la période, on peut dire, la plus sombre, la plus effroyable, la plus terrible depuis toujours, hein, depuis que les hommes existent. Alors, ça sera de part, d'abord, les jugements qui vont s'abattre sur la terre, puisque quand on lit l'Apocalypse, eh bien, on voit tous ces jugements qui tombent. Mais ce sera aussi de part la manifestation du mal, dans son expression la plus forte, au travers de l'Antichrist. Donc, il sera l'incarnation du mal qui sera sur la terre et qui voudra éliminer le peuple de Dieu. Cette époque de détresse, elle concerne le peuple d'Israël. C'est important de le souligner, parce que quand il parle de ton peuple, en ce temps-là, ceux de ton peuple, il est en train de parler des Juifs. Donc le contexte nous parle ici des Juifs et non de l'ensemble des croyants de la terre. Israël va donc être persécuté à outrance. L'épreuve sera sans égale. Et dans ce dernier chapitre, on apprend beaucoup de choses au sujet des épreuves. Donc le thème de ce matin, c'est les épreuves. Et les épreuves, ça présente le visage d'abord de la souffrance, de la difficulté, de la tristesse, de la peine. C'est difficile. Il y a une, un malaise intérieur, il y a une envie d'être ailleurs, une envie de vivre autre chose, une envie d'en sortir, une envie de ne pas vivre ce que l'on est en train de vivre dans la minute. Et l'épreuve, par définition, c'est difficile pour celui qui la vit. Donc le premier visage, c'est un visage plutôt négatif. Mais si le Dieu parfait qui a fait les cieux et la terre a permis l'épreuve, s'il a permis à nous, ses enfants, dans nos vies, c'est que ben, il y a un deuxième visage, il y a un bien, il y a quelque chose, il y a une bénédiction qui est derrière l'épreuve. Et c'est le deuxième visage de l'épreuve. Au final, il y a un bienfait. Et c'est pour ça qu'on trouve dans le Nouveau Testament plein d'exhortations à persévérer, à se réjouir même dans les épreuves. Si Dieu nous dit ça, c'est qu'il y a quelque chose de bon qui est derrière. Et c'est un paradoxe, hein, se réjouir dans l'épreuve. Alors on va voir ensemble quatre choses qui, dans notre texte, concernent Israël, mais que l'on peut appliquer à nos vies aujourd'hui. Alors la première chose, c'est Dieu révèle progressivement son plan parfait. La deuxième chose, c'est que Dieu permet que son peuple passe par le feu. C'est un fait. La troisième chose, c'est que Dieu veut faire par l'épreuve une œuvre merveilleuse en nous. Et la quatrième chose, c'est que Dieu récompense son peuple fidèle. D'abord, première chose, Dieu révèle progressivement son plan parfait. Regardez Daniel 12, verset 4. « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » Quand Daniel a reçu toutes ces révélations, toutes ces prophéties, il a reçu aussi l'ordre de le sceller, c'est en fait de le serrer, comme vous prenez un rouleau, là, vous prenez une feuille, vous la roulez, et puis vous la serrez le plus possible, ça bien, bien serré, et puis une fois que c'est serré, hop, on y met un cachet, on y met un sceau, pour que ce ne soit pas ouvert, qu'on ne puisse pas le lire, qu'on ne puisse pas le comprendre. Et il y a ici l'image concrète, matérielle, d'une vérité, d'une réalité spirituelle. Ces paroles, ces prophéties devaient être tenues secrètes. Et la révélation de Dieu, c'est quelque chose qui est progressif. Dieu a un plan qui est parfait, mais il ne nous dit pas tout en une fois. Non, c'est progressif. Parfois, on aimerait avoir toute la connaissance, toute la compréhension. Moi, quand je fais un message, des fois, j'aimerais bien, parce que je me retrouve devant un texte, je me dis, mais mince, qu'est-ce que tu voulais dire, Seigneur ? C'est difficile, hein ? On aimerait avoir toute la compréhension. On aimerait aussi avoir la compréhension par rapport aux épreuves de la vie et à tout ce qui est difficile dans nos vies. Il y a des grands pourquoi où cette question, mais où cela nous mène-t-il ? Où vais-je ? Mais Dieu ne veut pas qu'on sache tout en une fois. Et dans tous les domaines, il y a des zones d'ombre. On ne sait pas, on ne comprend pas, ou on ne comprend pas encore. Regardez Daniel 12, 8, verset 8. « J'entendis, mais je ne compris pas, et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses ? » Et n'est-ce pas là la question qui est parfois dans notre cœur ? Quelle sera l'issue de ces choses, Seigneur ? Pourquoi ? Daniel 12, 9, il répondit, « Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » Et on voit que Dieu ne donne pas de réponse à Daniel. Il ne répond pas directement à la question. Au lieu de cela, il dit, « Par l'ange, ces paroles seront tenues secrètes, scellées jusqu'au temps de la fin. » Autrement dit, c'est pas à toi, Daniel, de tout comprendre et de tout savoir maintenant. Et parfois, il faut accepter de ne pas comprendre aujourd'hui certaines choses. Alors, c'est d'abord vrai en ce qui concerne la compréhension des Écritures ou l'interprétation des Écritures. Il est dit à Daniel qu'à la fin, la connaissance va augmenter, la connaissance augmentera. Et il est certain que la connaissance, elle a beaucoup augmenté. hein, depuis le temps de Daniel, avec toutes les révélations qu'on a reçues, toutes les prophéties qui sont devenues claires, lumineuses, la connaissance a beaucoup augmenté. Le plan de Dieu devient de plus en plus clair au fur et à mesure que l'on avance. Mais on ne sait pas encore tout. Et il faut être parfois modeste, mesuré dans notre manière de comprendre les Écritures. On peut dire, dans l'état actuel des choses, des circonstances, et de ce que l'on sait ou de ce qu'on a compris des Écritures, eh bien on pense, voilà, c'est comme ça. C'est notre conviction. Mais on ne sait pas tout. Il y a des détails, il y a des ambiguïtés de Dieu, hein, où là, Dieu le permet, quoi. Hein. À la pastorale, j'avais une question, là. Je me suis dit, ah, j'ai toute une brochette de pasteurs, là. Je vais aller poser ma question. Première question, à chaque fois, des pasteurs qui avaient quand même pas mal de vie de ministère, de connaissances, et une réponse. Ah, tiens, j'avais jamais vu ça comme ça. Ah oui, c'est intéressant. Deuxième pasteur, une autre réponse. Ah oui, c'est vrai, c'est sensé, ça. C'est pas bête. Et puis, je suis allé voir ailleurs un petit peu, consulter à la Maison de la Bible des commentaires que j'avais pas. Et là, on peut repartir dans une autre direction. Et c'est tous des hommes de Dieu, qui sont inspirés aussi. Hein. Mais c'est pas net, parce que c'est pas écrit noir sur blanc. Parfois, c'est plutôt en gris très très clair. Vous voyez, alors, vous cherchez, c'est pas net. Il y a des choses qui sont nettes. Attention, on n'est pas en train de parler de la divinité de Jésus-Christ, hein, ou des choses comme ça. Hein. On est en train de parler de choses plus ambiguës, plus secondaires, des choses sur la fin des temps, notamment. Et il y a certaines choses qui vont devenir claires le jour où on va les vivre. Là, tout sera. Ah ben oui, bien sûr, c'est ça. C'est ça. Et là, on sera tous d'accord. On pense aujourd'hui que c'est comme ça. On l'affirme au vu de ce que nous savons, mais tout va devenir clair le jour où on va le vivre, le jour où ça arrivera. Le jour notamment où on va passer dans l'éternité, alors là, plein de réponses à toutes des questions qui sont restées un peu floues. Dieu a un plan, mais il ne le révèle que progressivement. Donc c'est vrai en ce qui concerne la compréhension des Écritures, mais c'est vrai aussi en ce qui concerne notre vie personnelle. Lorsque Dieu vous sauve, vous attire à lui et vous croyez, vous vous repentez, vous devenez son enfant, il ne vous informe pas de toutes les choses que vous allez vivre. Les chemins par lesquels vous allez passer, ce que vous allez rencontrer comme épreuve, il ne vous dit pas tout. Il vous fait pas voir d'emblée toute votre vie. Tu vas passer par ça, tu vas te marier, puis après tu auras cette épreuve, et puis après ça va se passer comme ça. Non, il ne fait pas ça. On ne sait pas quel est notre futur. Dieu peut donner des indices, c'est vrai. Parfois, il y a des petites choses, hein, où on se dit, ah, une promesse, hein, mais il ne nous dit pas tout. Par exemple, quand Dieu va choisir le jeune David, et va le oindre, il ne va pas lui dire, un jour, tu vas être persécuté par ton roi. Il va te faire souffrir, ça va être difficile. Il ne lui dit pas ça. Un autre exemple, lorsque le Seigneur est apparu à Saul de Tarse sur le chemin de Damas, il ne lui a pas dit « Je vais te montrer tout ce que tu vas souffrir pour mon nom ». Non, il a dit à Ananias « Je vais lui montrer tout ce qu'il va souffrir pour mon nom ». Et Paul ne le savait pas. Et il a avancé dans sa vie chrétienne et petit à petit, eh bien, voilà, ça s'est déroulé dans sa vie. C'était progressif. Et il en est ainsi de chaque vie chrétienne. Pourquoi ? Parce que s'il nous révélait tout à l'avance, déjà peut-être qu'on dirait non. Non. Si vous avez deux routes, une à gauche, une à droite vous savez que vous allez avoir un accident 2 kilomètres plus loin, et à gauche il n'y a pas d'accident, quelle route vous choisissez, quoi ? C'est évident, c'est évident. Si Dieu nous disait tout, probablement on reculerait. Même notre Seigneur, qui pourtant savait tout à l'avance, tout le plan concernant la crucifixion, bien dans le jardin de Gethsémané, il a eu un mouvement de recul. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et si le Seigneur s'est arrêté là, devant l'épreuve, qu'en sera-t-il de nous? S'il nous dit, non, on se sauve, on fait demi-tour. Ensuite, parce que s'il nous révélait tout à l'avance, on aurait aussi probablement peur. On aurait peur du futur, effrayé du plan de Dieu. Comment vais-je vivre cette épreuve? Pourquoi vais-je vivre cette épreuve? Pourquoi moi? Tout autant de questions où il n'est pas nécessaire qu'on ait les réponses. Et puis, il faut considérer aussi que nous ne sommes pas toujours prêts pour entendre certaines choses. Le plan de Dieu, ça fait partie d'un ensemble. Regardez par exemple Joseph. Il reçoit des songes. Donc, Dieu est en train de lui dire son plan. Mais c'est un mystère. Il ne comprend pas. Il explique ses songes à sa famille. La famille non plus ne comprend pas. Et puis, Joseph va passer par plein d'épreuves jusqu'à ce que finalement, il termine sur le trône de l'Égypte. Et là, il se souvient de tous ses songes et il comprend. Ah oui, c'était ça. Mais Joseph n'était pas capable encore de le recevoir, de le comprendre. Il fallait d'abord qu'il passe par tout ça avant de le vivre. Enfin, si Dieu nous disait tout à l'avance, il est probable que nous fausserions le présent. On empêcherait Dieu d'exécuter toute sa volonté, tout son plan dans notre vie. On voudrait prendre les commandes, changer des détails, de certaines choses. Donc, on ne sait pas. Alors, pour ces raisons, peut-être pour d'autres encore, Dieu a choisi de tenir des choses qui sont secrètes. Son plan, il est parfait, ça, on ne doit pas en douter, mais sa révélation de son plan est progressive. Ensuite, la deuxième chose, Dieu permet que son peuple passe par le feu. Ça, c'est un fait indéniable. L'épreuve, elle fait partie de la vie des hommes et même de la vie des enfants de Dieu. Être chrétien, c'est pas entrer dans une bulle rose et puis d'un seul coup, ça y est, il y a une protection totale et complète. Il y a des épreuves. En allant à Paris, je prends mon TGV, je fais une demi-heure de route et le train, il s'arrête. Bon, d'accord. On n'était pas très loin. Et à ce moment-là, il nous explique que on a perdu une partie d'un pantographe. Vous savez, c'est les trucs qui touchent les lignes. Hein. On en a perdu une partie, donc le train s'arrête. On voit le chauffeur passer, enfin, le conducteur passer à l'arrière du train pour aller vérifier. Et finalement, au bout de 45 minutes, il réussit à rétablir le courant. Bon, nous allons pouvoir repartir. Très bien. On avance encore 15 minutes, 20 minutes, et ça s'arrête. Là, il y avait de l'électricité. Excusez-nous, le pont de 7 est levé, on ne peut plus avancer. 45 minutes. Ok. Il faut savoir, je suis parti à 17h38, quelque chose comme ça. Donc, je voyais l'heure se tourner. Ok. On avance, finalement, ça repart. Et on s'arrête à Valence. On est obligé de vérifier que ça se passe bien sur le toit, là, parce qu'avec la partie qui est perdue, on a peur qu'on ne puisse pas continuer. Bon, on arrive sur Paris, on s'arrête dans la banlieue. Il y a un train bloqué devant nous, parce qu'il y a la police qui doit intervenir dans le train. Reparti pour 30 minutes. Bilan, j'étais couché à 3h du matin. Et je suis reconnaissant pour la sœur qui est venue me chercher. Mais pourquoi, Seigneur, tu permets ça? Il y avait bien des enfants de Dieu dans le train. J'imagine que je n'étais pas le seul, j'espère. Pourquoi tu n'as pas fait que le train aille? Voilà. Hein, garde tes enfants. Mais non. Il y a aussi des difficultés. On ne les comprend pas forcément. Mais Dieu permet qu'on les vive. C'est valable pour les petits inconvénients de la vie. Et là, ça, c'est un petit inconvénient. Mais c'est valable aussi pour les grandes souffrances de la vie et les grosses difficultés de la vie. Parce qu'il y a des petits inconvénients et il y a aussi des grandes épreuves qui sont comme un feu. Et Dieu permet que son propre peuple passe par le feu. Dans le contexte de ce matin de Daniel, c'est Israël qui passe dans la deuxième partie de la tribulation. Et on l'a lu dans une époque de détresse telle qu'il n'y en a jamais eu depuis le commencement du monde. Alors il faut préciser, quand vous regardez Israël aujourd'hui, vous voyez des religieux, mais la grande majorité d'Israël est athée. Ne croit plus en Dieu, a complètement rejeté l'Éternel. Hein. Il faut, ça c'est l'Israël de Dieu aujourd'hui n'est pas tel que Dieu voudrait qu'il soit. Dieu voudrait qu'il soit autrement. Mais il va y avoir la tribulation, et à ce moment-là, ça va changer. Regardez Daniel 12, 7. Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche et jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Et là on voit Israël, c'est le peuple saint, qui va arriver au bout de lui-même. Leur force sera brisée. Leur orgueil sera cassé. Il y aura à ce moment-là plus de superbe, il n'y aura plus d'élévation, il n'y aura plus de sentiment de supériorité. Israël sera diminué. En Sophonie, chapitre 3, verset 12, il y a ce verset que je vous lis. Il est dit « Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. » Et ce verset, ça correspond à l'issue, à la fin de la tribulation. Et voilà le plan de Dieu pour Israël. Après cette épreuve de la tribulation, le peuple de Dieu sera humble, petit, cherchant son refuge, se cachant en Dieu, attaché à son Dieu. Mais pour devenir ce peuple-là, bien avant, Dieu permet qu'il passe par le feu. Et on peut en faire une application à nous-mêmes. Dieu peut permettre aussi des brisements dans nos vies pour nous transformer intérieurement. Si la vie, elle suit son cours sans difficulté, sans problème, sans qu'il y ait rien, c'est plat, à ce moment-là, l'homme pécheur reste pécheur. Il ne change pas. Mais par les difficultés, par les épreuves, l'homme change. On en a un exemple avec Jacob. Donc Jacob, il est la descendance choisie pour engendrer le peuple d'Israël. Et Jacob, quand on lit dans la Genèse, il manifeste un caractère limite. Hein. Des fois, il est un peu... Ça ne va pas. Hein. Ça va pas. Il y a comme des rugosités désagréables. C'est comme un bloc de marbre qui n'a pas encore été taillé. Et Jacob va passer par des brisements, notamment lorsqu'il arrive chez son oncle, Laban. Et là, eh ben, il travaille 7 ans, il travaille encore 7 ans. Et Laban, qui le fait un peu tourner en rond et tout ça, la Bible n'explique pas entre les versets. Mais bon, c'était, j'imagine, difficile. C'était un brisement pour lui. Et finalement, eh bien, après ces 14 années, Jacob s'en va. Et puis il rencontre l'ange de l'Éternel. Et il lutte avec l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel lui déboîte la hanche. Et Jacob se retrouve boiteux. Maintenant, il est boiteux. Il est affaibli. Et c'était un petit peu comme un brisement moral. On a ici une image de la spiritualité, de ce que Dieu a fait dans sa vie. Jacob a changé. Jacob n'est plus le même. On a un autre exemple avec l'apôtre Pierre. On voit un Pierre dans les évangiles, très sûr de lui. Il sait même avant que les autres ont commencé à penser. Lui, il sait déjà. Il sait tout. Mais quand on regarde le Pierre dans les actes et dans les épîtres, alors là, c'est plus le même. Mais entre-temps, ben, il y a eu un brisement. Et le brisement, ben, c'est cette parole. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et puis c'est ce regard, le regard de Jésus, qui le perce, et Pierre qui pleure. Et puis après, c'est cet entretien où le Seigneur lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Brise-moi. Et Pierre, après ça, ne sera plus jamais le même. Et c'est une réalité que Dieu fait passer par le feu pour nous briser d'une certaine manière. Il veut changer ce qui ne va pas en nous. Et l'épreuve, c'est un moyen. C'est une manière de nous délivrer de nous-mêmes et de nous conduire dans une vie qui le glorifie. Maintenant, briser, ça ne veut pas dire écraser, piétiner, blesser. C'est pas ça. C'est pas ça. Et c'est ce qui m'amène à mon troisième point. Dieu veut faire, par l'épreuve, une œuvre merveilleuse en nous. Regardez Daniel 12, 10. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Et on voit ici la fonction de l'épreuve. Le but, c'est la purification, c'est le blanchiment et c'est un raffinement. En fait, littéralement, le mot traduit dans nos Bibles par éprouver, c'est raffiner, c'est épurer, c'est passer au creuset. Dans la première épître aux Corinthiens, il est dit que tous les enfants de Dieu vont passer comme au travers du feu. Vous souvenez de ce passage, c'est le tribunal de Christ. Il est dit « Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun ». Ça signifie que le feu, ça brûle toutes les impuretés, toutes les œuvres imparfaites, toutes les œuvres qui sont charnelles, tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur, tout ce qui n'a pas de valeur, tout ce qui est souillé par le péché, qui est souillé par l'orgueil, qui est souillé par la volonté humaine, le feu purifie toutes les impuretés. Et il en est de même pour l'épreuve que Dieu permet. C'est un moyen de faire brûler, de faire disparaître ce qui ne devrait pas être, plus être. Nous sommes de nouvelles créatures en Jésus-Christ. C'est une réalité. Si vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie, c'est une réalité. Dieu, maintenant, veut vous transformer à sa ressemblance. Il veut que nous soyons comme lui. Mais il y a des impuretés, il y a des péchés, il y a des choses qui nous collent à la peau, si je peux dire. Il y a des habitudes, il y a des réflexes charnels. Ça revient à chaque fois et ça doit disparaître. Et il n'y a que le feu de l'épreuve qui peut nous purifier, qui peut nous blanchir de ces imperfections. Alors, eh bien, Dieu permet des épreuves qui sont, si je peux dire, personnalisées, des épreuves qui sont choisies, des épreuves qui sont uniques et qui vont être le moyen pour Dieu de faire une œuvre merveilleuse en nous. Dieu veut qu'on soit des joyaux qui brillent des mille facettes de sa personnalité. Il veut qu'on lui ressemble, que ce soit dans sa patience parfaite, dans son amour parfait, dans sa grâce parfaite, dans son humilité parfaite, etc. Et ce n'est que, eh bien, en étant façonné, transformé par l'épreuve. Bien sûr, si on nous disait « tu vas passer par le feu », on chercherait à l'éviter. On ne le voudrait pas. Dans les trajets que je faisais à Paris dans le métro, je lisais un livre de Gilles Georgel. Donc c'est un pasteur qui a une enfant qui est atteinte de myopathie. Et ça peut être une épreuve du feu pour une famille. On ne choisit pas ces épreuves. Et j'aimerais vous faire part d'une illustration touchante que j'ai lue dans ce livre. Il l'a repris d'ailleurs, mais c'est tellement parlant. Et je la date un tout petit peu pour nous ce matin. Admettons, vous avez le projet d'aller en Italie. Voilà, c'est super, vous allez aller en Italie. Vous achetez une quantité de guides pour vous informer. Vous faites des merveilleux plans, le Colisée, Michel-Ange, les gondoles, Venise. Oui, merveilleux. Vous apprenez même des expressions en italien. Ben oui, c'est passionnant. Après plusieurs mois, le jour arrive. Enfin, faites vos bagages, montez dans l'avion. C'est super. On décolle, le vol se passe très bien. L'avion atterrit une poignée d'heures plus tard. L'hôtesse s'approche et dit « Soyez les bienvenus en Hollande !» Et hein, la Hollande ? Mais moi, j'étais parti en Italie, pas en Hollande. Oui, mais bon, il y a eu un changement de plan de vol. L'avion a atterri en Hollande, c'est là que vous devez séjourner. Et vous débarquez, et vous étiez fait toute une image, toute une vision de l'Italie, et puis terrain plat, un ciel gris, une chape de plomb, une bruine, morne, triste. Qu'est-ce que je fais là ? Vous reprenez votre souffle. Et puis vous découvrez que finalement la Hollande a des jolis moulins avant là qui tournent. Il y a des Rembrandt en Hollande. Et puis il y a des champs de tulipes. C'est magnifique. Alors vous décidez d'acheter des nouveaux guides pour essayer de voir eh bien, tout ce que vous pouvez voir. Vous apprenez une nouvelle langue. Et puis vous rencontrez des personnes que vous n'auriez jamais rencontrées si vous étiez allé en Italie. Tous vos amis, cependant, continuent de vous parler de la fameuse Italie, racontant que mais c'est le voyage de leur vie. Pour le reste de votre existence, vous vous direz, oui, c'était là que j'étais censé aller. Ça, c'était ce que j'avais projeté. Et cette douloureuse expérience ne s'estompera jamais parce que la perte de ce rêve est une perte incommensurable pour vous. Mais si vous passez votre vie à pleurer parce que vous n'êtes pas allé en Italie, vous ne pourrez jamais goûter aux joies de la Hollande. Ça, c'est un fait. Alors, c'est un endroit si différent, mais aussi si intéressant. C'est intéressant. Et la morale, eh bien, c'est qu'il faut s'y intéresser. Et alors, vous ne maudirez jamais l'avion qui vous a détourné. Et quelle que puisse être notre vie, quelles que puissent être nos épreuves, il n'y a rien qui échappe au contrôle de Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. 85% le connaissent par cœur, ce verset. Rien ne lui échappe. Et même si vous n'aviez pas prévu la Hollande, ben il y a quelque chose de bon là où vous êtes. Il faut peut-être changer son regard. En ayant détourné votre vol, Dieu a prévu autre chose. Il veut faire en vous une œuvre merveilleuse. Une œuvre qu'il n'aurait pas pu faire de la même manière si vous étiez en Italie. Donc votre épreuve, elle est choisie pour que vous soyez un joyau purifié, blanchi et épuré de toute scorie impure. Et puis pour terminer, quatrième point, Dieu veut récompenser son peuple fidèle. La fidélité, c'est quelque chose qui trouve sa récompense. Parce que vous savez, l'épreuve ou la vue de l'épreuve, comme je le disais tout à l'heure, ça donne envie de fuir. Hein. Et ça vous arrive, et ça nous arrive à tous. À un moment, on veut tout plaquer, on veut tout changer. Fini avec l'épreuve, hein. Stop, n'en jetez plus, c'est bon, on arrête. Aussi, parfois, on se dit, oh, il y a peut-être un raccourci là pour abréger l'épreuve. Oh, je la termine rapide, on n'en parle plus. On voit le raccourci, on est tenté de le prendre. Mais faut se poser la question, est-ce que c'est le choix de Dieu ? Est-ce que ce ne serait pas le choix de la chair ? Est-ce que c'est le choix du péché, le choix de l'indépendance ? Et dans toutes les Écritures, Dieu nous enseigne à ne pas abandonner, mais au contraire à persévérer. Persévérer. Il y a une récompense finale derrière les bons choix que nous faisons. Il y a toujours une récompense derrière les bons choix que nous faisons. Vous avez un enfant qui fait du piano. C'est difficile, il faut répéter, peut-être que vous l'avez vécu dans votre enfance, je ne sais pas. Et il faut travailler, c'est difficile. Si ce n'était pas difficile, je serais pianiste. Mais c'est difficile. Apprendre un instrument, c'est toujours difficile. Et c'est ceux qui en jouent qui vous le diront. Ça demande du travail, ça demande de la persévérance. Ce n'est pas le choix facile. Mais à la fin, il y a une récompense. Et il y a une récompense de, en plus, pouvoir jouer pour le Seigneur et glorifier le Seigneur. Quelle bénédiction! Vous êtes pur devant le Seigneur. Mais vous voyez les années qui passent. Et vous commencez à vous poser la question, mais vais-je rester seul? Et puis un ami passe là, un ami qui ne connaît pas le Seigneur. Il vous invite à boire un verre. Et puis il vous déclare sa flamme pour vous. Et là, dans un simple choix, un choix rapide, votre épreuve de solitude, elle est réglée. C'est bon. Un simple choix, un choix facile. Ça, c'est la voie facile. Par contre, s'en remettre à Dieu, en croyant qu'il a un plan parfait pour ma vie, en croyant qu'il m'aime, en croyant qu'il se soucie de mes besoins, en croyant qu'il entend mes prières et qu'il sait ce qui se passe dans mon âme, ça, c'est le choix difficile. C'est le choix qui coûte. Mais pensez, si Dieu, dans son plan, a prévu un conjoint qui aime Dieu et qui va vous tirer vers le haut, qui va vous faire aimer davantage Dieu et qui va être une bénédiction pour vous, pour votre famille, pour vos enfants, est-ce que ce n'est pas le meilleur? Quelle promesse, quelle grâce, quelle récompense! La récompense d'être fidèle. C'est identique dans la famille, dans le couple. Il y a parfois des choix qui ne sont pas les choix faciles. Parce que ce sont des choix qui nécessitent de la persévérance, de l'abnégation, de l'humilité, de la volonté, du courage. Dans le couple, parfois, il y a des choix, mais ça demande une énergie phénoménale. Phénoménale. Mais quelle récompense quand on accepte de faire ces choix-là? Quelle récompense après 10 ans, après 20 ans, après 30 ans, de se prendre la main, de se dire qu'on s'aime et d'être heureux de n'avoir rien gâché. De n'avoir rien gâché. Ce ne sont pas des choix faciles, mais c'est les plus beaux choix, c'est les meilleurs. C'est aussi vrai dans certains choix qui concernent les enfants. Emmanuel Bozzi, vous le connaissez, il est venu prêcher l'année dernière, pasteur à Paris. Il en parlerait beaucoup mieux que moi. C'est difficile même d'en parler, mais c'est une vérité. Ils ont, avec Virginia, un enfant, Philippe, qui est trisomique. Là encore, on peut regarder les deux voies. Hein. On se dit, mais quelle est la voie facile? Le monde nous indique clairement, la voie facile, c'est celle-là. Hein. C'est rapide, facile, pratique. Mais Emmanuel donne ce conseil. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Il l'écrit dans son témoignage. Il dit, je vous le dis par expérience. Donc, il s'adresse à des jeunes femmes qui ont ce problème, qui sont devant ce choix. Il dit, je vous le dis par expérience, gardez cet enfant, ne le rejetez pas, cet enfant vous rendra heureux. C'est lui qui le dit. Alors peut-être qu'il y a beaucoup d'efforts, c'est certain, beaucoup de sacrifices, hein, de persévérance, et même moi j'ignore. Mais c'est les parents qui vous disent, il y a du bonheur après ça, il y a du bonheur. Du bonheur à choisir la voie difficile que Dieu a pour nous. À ce sujet, Emmanuel a écrit un article récemment. L'article s'intitule « Et si Steve Jobs n'existait pas ?» Pourquoi ? Parce qu'il a été conçu en 1955 par deux étudiants célibataires. Et à l'époque, aux États-Unis, l'avortement pour des raisons personnelles n'était pas encore autorisé sur l'ensemble des États aux États-Unis. Alors, s'il y avait un enfant, c'était l'orphelinat ou l'adoption. Et c'est ce qui est arrivé pour Steve Jobs, donc le patron d'Apple, pour ceux qui ne sont pas au fait de ces choses. Donc, les iPads, les iPhones et tout ça, voilà. C'est lui qui a pensé à tout ça. Dans notre société actuelle, il n'aurait jamais existé. Il n'aurait jamais existé, cet homme. Un enfant, c'est la vie qui bascule. Ça peut bousculer tous vos plans de carrière, tous vos plans d'avenir, tous vos projets. Ce n'est pas un choix facile. Mais à la fin, quand on a fait le choix d'aimer, quand on a fait le choix d'éduquer, de s'investir, mais quelle récompense, quel bonheur, quel bonheur. Et il en est de même concernant la vie d'une manière globale. Beaucoup de choix sont des choix difficiles, qui demandent beaucoup de persévérance. Mais les bons choix, il faut le savoir, sont rarement faciles. Rarement faciles. Ils sont souvent difficiles. Mais c'est les bons choix. C'est les bons choix. Et il y a une vraie récompense dans la fidélité à faire les bons choix. L'ange va dire à Daniel, Daniel 12, 13, regardez. Il va dire, « Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras, tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. » Et il faut qu'on garde présent devant nos yeux qu'il y a une récompense pour les bons choix que nous faisons, pour l'obéissance à la parole de Dieu, pour le désir de faire non notre propre volonté, mais la volonté de Dieu. Il y a une récompense finale. Comme Moïse, il faut qu'on lève les yeux sur la rémunération finale. Moïse a fait un choix. Il avait les yeux sur la rémunération finale. Il y a une récompense finale. Et elle n'est pas si loin. Elle est pas loin du tout. Hein. Ça passe vite. Le temps passe si vite. On est à la porte là. On est à la porte à côté de l'éternité, mais c'est rien. C'est rien. L'ange a dit à Daniel, marche vers ta fin. Autrement dit, mais continue, persévère, ne te relâche pas dans ta foi. Va jusqu'au bout. Et il faut qu'on garde cet objectif, je vais aller jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'au bout. Je vais persévérer. Soyons fidèles jusqu'au bout. Et puis il lui a dit, tu te reposeras. Et ça c'est une belle promesse, hein, parce qu'il y a bien des choix qui conduisent à une fatigue. Il y a une fatigue physique, il y a une fatigue morale. Mais Dieu prépare un temps de repos. Un jour, et c'est pas si loin, on va entrer dans la félicité éternelle et là, on va se reposer. Ça ne veut pas dire qu'on ne va plus rien faire. On va être hyper actif. Mais il n'y aura plus de fatigue. Il n'y aura plus de peine. Ça sera plus dur comme ça. On servira sans obstacle. La fatigue ne sera plus, les maux ne seront plus. Pourquoi ? Parce qu'on aura un corps qui est ressuscité. C'est ce que Daniel dit au verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Donc ce verset nous parle de la résurrection. Donc là, Daniel parle dans le contexte de la résurrection des Juifs, mais c'est la première résurrection dont tous les croyants vont faire partie. La première résurrection, nous ressusciterons avec un corps glorieux et là, ce sera le repos. Après une vie où on a parfois le sentiment de se traîner, on se lève, on a mal au dos, c'est difficile. On est parfois prisonnier d'un corps. Un jour, ce sera léger et on sera plein de force. Ça sera un vrai repos. Pour ceux qui se sont repentis et qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ, je le dis parce que tous ressusciteront, tous les hommes vont ressusciter. Les uns pour la vie, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, qui ne se sont pas repentis, qui n'ont pas mis leur foi en lui. Et puis pour finir, l'ange dit à Daniel, « Tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. » Et de là aussi, l'importance de persévérer dans la fidélité. Pourquoi ? Parce qu'il y a une gloire finale qui nous est réservée. Il y a une gloire finale. La gloire d'être debout, sans honte, sans crainte. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Daniel 12, 3. Il dit, Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Ça veut dire que l'éclat de votre vie va être multiplié. Multiplié. Posez-vous la question, une vie terne de désobéissance, d'égoïsme, de choix faciles, de récompense immédiate. Parce que dans les choix faciles, il y a la récompense immédiate. Quel va être l'éclat là-haut ? Il ne faut pas que ça soit comme ça. Soyons intelligents. Il le dit. Il dit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Soyons intelligents, intelligents dans les choix que nous faisons ici-bas. Et même, allons plus loin, partageons, servons, partageons notre foi, parce que ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Pensez à cette phrase. Briller à toujours, à perpétuité. À toujours, à perpétuité. Briller comme ça pour toujours. Mais quelle grâce! Quelle grâce! Est-ce que ça ne vaut pas la peine de se mettre aux pieds du Seigneur aujourd'hui et lui dire, Seigneur, pardon, ces derniers temps, je n'ai pas été fidèle. Ces derniers temps, j'ai désobéi. Pardon de ne pas avoir fait les bons choix, Seigneur. Seigneur, aide-moi à t'aimer. Aide-moi à te servir, à accepter mes épreuves, sachant que tu veux me purifier, tu veux me blanchir, tu veux me raffiner pour que ma vie te glorifie. On va s'incliner dans la prière.